Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Proverbes. Livre des Proverbes, chapitre 9. Alors, on le sait tous, hein, le livre des Proverbes, c'est un livre qui est riche d'enseignements sur la sagesse, hein, sur la vie humaine, hein, les choix de vie, sur la manière de se comporter envers nos parents, envers nos prochains, le regard que nous devons porter les uns sur les autres. Et bien sûr, c'est donc un livre de sagesse, hein, c'est un livre où Dieu nous montre exactement hein, ce qu'il attend de nous, hein, les choix de vie que nous devons faire. Et il y a vraiment un verset qui m'a, on va dire quelque part interpellé dans ce proverbe chapitre 9, eh bien c'est bon, tout le chapitre, hein, c'est une invitation hein, de la sagesse à venir chez elle. En verset premier, nous dit « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes. » Et ensuite, il dit « Elle a égorgé ses victimes, donc elle a préparé les animaux, la viande, mêlé son vin, dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes et elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville hein, que celui qui est stupide entre ici. » Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Hein, quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain et celui qui corrige le méchant reçoit courage et continue ainsi de suite sur ses enseignements. Mais on a une invitation à venir dans la maison de la sagesse. Hein, donc ce verset où il dit qu'elle a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes, et c'est cette image qui m'a interpellé. L'image des colonnes. On sait que pour construire une maison solide, une maison qui va résister aux assauts du temps, il faut une bonne fondation, n'est-ce pas? Au camp, j'ai eu l'occasion de prêcher sur cette parabole. Hein, de l'homme sage et de l'homme insensé, hein, qui l'un qui a bâti sa maison sur le roc et l'autre sur le sable, hein, qui est une image hein, du bon choix à faire concernant Christ, hein, de ne pas construire notre vie hein, sur autre chose que Christ lui-même, mais ça commence hein, par le salut. Mais pour construire une maison solide, effectivement, il faut de bons matériaux, hein, mais surtout une bonne fondation et une bonne structure. Parce que la fondation, c'est ce qui permet à la maison d'être stable. C'est ce qui permet à la maison hein, de rester bien droite, de ne pas vaciller d'un côté ou de l'autre. Et ce passage de Proverbe nous parle donc de cette construction d'une maison, hein, celle de la sagesse, hein, qui a taillé ses sept colonnes. Alors, les colonnes, elles avaient, on va dire, deux raisons d'être. La première, c'est que bon, les colonnes servaient aussi à maintenir la structure hein, d'un bâtiment, la structure de la maison. Mais une colonne, c'est fait aussi pour être joli, n'est-ce pas? Hein, quand on voit certains des anciens édifices avec des belles colonnes, ça apporte quelque chose de majestueux, c'est quelque chose que l'on voit en premier. Hein, on pense bien sûr à tous ces anciens édifices de l'Antiquité que l'on retrouve en Grèce et en Turquie, etc. Mais même ici en France, hein, on s'est beaucoup inspiré dans l'architecture hein, de beaucoup de nos monuments et bâtiments en France. À Paris, il y en a plusieurs avec ces grandes colonnes et qui donnent donc cette image d'un édifice solide, mais aussi d'un édifice majestueux. Alors je me suis posé la question, bah, quelles seraient donc eh bien, ces sept colonnes? À quoi est-ce qu'elles ressembleraient? Qu'est-ce que la sagesse, elle a à montrer, à manifester hein, devant la maison, hein, comme image, comme enseignement? Et alors ça m'a fait penser à un autre passage que nous trouvons dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 3. Et nous allons voir que dans ce passage de Jacques, il est question, bien sûr, eh bien de sagesse. Jacques chapitre 3. Et là, Jacques, déjà, bon, au verset 13, on peut commencer à partir du verset 13, il dit, Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Alors, on peut dire que l'on est sage, on peut dire que l'on est intelligent, mais qu'est-ce qui va vraiment montrer, manifester que nous sommes sages? Ça va être nos œuvres. Hein, il dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Et c'est cette même image que, voilà, pour voir la sagesse, il va y avoir ces colonnes qui vont être là devant et qui vont montrer dans notre vie, effectivement, que nous avons construit, édifié notre vie, déjà sur le fondement qu'est Christ, mais avec la sagesse que donnent les Écritures. Et c'est cette colonne qui sont là pour montrer, pour manifester que cette sagesse réside dans cette maison. Il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Hein, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et là, au verset 17, c'est là où je retrouve pour moi ces colonnes. Verset 17 nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Hein, et il finit avec le verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors effectivement, le fait de rechercher la paix montre effectivement beaucoup de sagesse hein, de la part de cette personne. Mais voilà, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à édifier notre foi, notre vie sur Christ, sur le fondement de Jésus-Christ, de sa parole, mais d'avoir également ces colonnes, c'est-à-dire quelque chose qui, dans notre vie, va vraiment manifester que nous vivons bien ces choses. Ça va pas être des fausses colonnes hein, en plâtre ou en polystyrène, de vraies colonnes hein, taillées dans la pierre, solides, qui, même celles que l'on voit dans les vestiges de l'Antiquité dans les pays comme la Grèce, c'est des milliers d'années, sont encore là, sont encore visibles. Et c'est cette image forte hein, que, à la fois, l'auteur du livre des Proverbes, mais aussi Jacques, veut nous montrer, c'est cette importance d'avoir ces colonnes dans notre vie, des colonnes qui soient visibles, des colonnes qui soient réelles, qui soient solides et qui maintiennent cet édifice qu'est notre vie. Alors peut-être vous estimez que vous êtes au début de votre vie et c'est le moment justement de construire hein, avec la bonne fondation et puis d'installer ces belles colonnes pour votre maison spirituelle. Mais même si on a déjà des années de vie, on se rend compte, tiens, il me manque encore celle-là. En ce moment, à la télévision, il y a beaucoup d'émissions de rénovation, n'est-ce pas? Et je crois que ça, c'est aussi hein, la vérité de la parole de Dieu, c'est que il y a, à n'importe quel moment, nous pouvons rénover, nous pouvons remettre à neuf ou améliorer hein, les choses qui se trouvent dans notre vie. Et donc, parmi ces colonnes que nous trouvons dans l'épître de Jacques, j'aimerais donc juste les voir un petit peu plus en détail. Hein, pour que nous puissions faire en sorte que notre maison spirituelle eh bien, possède ces colonnes afin de montrer à Dieu justement un édifice solide et glorieux, mais aussi montrer aux personnes autour de nous hein, que notre foi, c'est quelque chose de réel, de vrai, hein, et que nous voulons faire les choses qui honorent Dieu. Et ce n'est pas simplement en parole, mais que ce soit quelque chose de visible. Donc le premier. Première chose que nous voyons ici dans le passage de Jacques, c'est quoi? C'est que la sagesse d'en haut, hein, c'est pas la sagesse humaine, hein, encore une fois, la sagesse d'en haut, eh bien, elle est premièrement pure. Oh, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de pureté par rapport aux épreuves de triathlon dans la Seine, n'est-ce pas? Hein, on en entendait parler tous les quelques infos, un tel athlète est malade, taux de pollution, on n'est pas certain qu'ils vont pouvoir aller de se baigner dans la Seine. On comprend l'importance de la pureté pour beaucoup de choses dans notre vie, mais quand il vient la question de la pureté morale, hein, la pureté de notre propre vie, hein, c'est pas aussi facile hein, de pointer le doigt sur nous-mêmes en se disant ah oui, non, ça c'est pollué là, hein, il va falloir faire quelque chose. Mais le terme ici que Jacques, il emploie hein, dans le grec, c'est le mot agnos, et c'est un mot qui est dérivé de hagios, qui est le mot pour sainteté, un saint. On comprend ici que la pureté dont il est question, eh bien, c'est la sainteté. On a eu l'occasion plusieurs fois de regarder aux attributs de Dieu et de voir que la sainteté comporte hein, ces deux aspects. D'abord, la perfection, mais aussi la pureté. C'est-à-dire qu'en Dieu, il n'y a aucun péché. Il est pur, mais il est également parfait dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il accomplit. Il est parfait. Et l'idée de pureté, elle est présente. Hein, du début jusqu'à la fin des Écritures, la notion de pureté pour même s'approcher de Dieu, elle est présente. Même dans beaucoup des religions païennes, il y avait certains rites qui devaient être accomplis pour que, avant que les personnes puissent entrer dans un temple ou apporter un sacrifice, il y avait des rituels de purification qui devaient être faits pour pouvoir s'approcher des autels dédiés aux divinités. Et dans les Écritures, ce principe, il est également là. Hein, l'idée que pour s'approcher de Dieu, il fallait hein, élever les mains pures. Hein, que pour s'approcher de Dieu, hein, il fallait même donc confesser ses péchés, hein, se repentir de ses péchés pour pouvoir s'approcher de Dieu. Ézéchias, il avait bien compris l'importance de la purification. Déjà la purification dans sa vie, la purification du temple à Jérusalem, tout devait être purifié. Hein, et ça allait hein, du plus petit ustensile jusqu'à l'édifice lui-même, les sacrificateurs, tout le monde devait se purifier afin de pouvoir se reconsacrer à l'Éternel et de pouvoir servir de nouveau l'Éternel. C'est intéressant aussi dans les choses que Jacques mentionne ici dans ces choses hein, que nous devons avoir par rapport à la sagesse, c'est qu'il y a un lien très proche avec eh bien, le sermon sur la montagne, hein, sur ce que Jésus disait hein, par rapport à heureux hein, sont ceux qui, bon, par exemple, ont le cœur pur. Hein, et on va en voir hein, au fur et à mesure que dans les différentes aspects là que on doit voir dans la sagesse, eh bien, il y a un lien hein, avec la prédication du Seigneur sur la montagne. Mais voilà, le fait d'avoir un cœur pur. Et on doit se poser cette question-là par rapport à nous-mêmes. Est-ce que, eh bien, on sait que nous ne sommes pas parfaits. Hein, on a vu en long et en large avec les ados pendant le camp qu'on a tous des luttes. On a tous des difficultés dans certains domaines ou dans d'autres par rapport au péché, par rapport aux tentations, par rapport aux convoitises, et qu'on a tous besoin, eh bien, de se maintenir dans la pureté, se maintenir dans la sainteté. Et on avait vu l'importance également pour nous, eh bien, de confesser nos péchés les uns aux autres. L'importance de parler à un autre frère, à une sœur en Christ, de parler de ses luttes, de prier ensemble, d'avoir quelqu'un qui soit là pour nous épauler, nous aider aussi, ou dans les moments où il y a des tentations, peut-être d'appeler hein, ce frère, cette sœur, et de prier avec elle. Mais l'importance de maintenir et de garder une vie qui soit sainte et une vie qui soit pure. Pourquoi? Parce que quand on considère ce que Christ a justement dû subir pour que nous puissions avoir la possibilité d'implorer la grâce de Dieu et en bénéficiant de cette grâce d'être purifié par Dieu, c'est-à-dire nos péchés sont effacés, la condamnation du péché n'existe plus, nous avons été déclarés saints en Jésus-Christ, et Dieu, à partir de ce moment-là, il nous dit maintenant, eh bien, vivez dans cette sainteté, que votre vie corresponde à cette sainteté. Est-ce que nous y arrivons parfaitement? Non. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'être conscient et d'avoir pour objectif de rechercher cette sainteté, de maintenir cette sainteté, cette pureté dans notre vie. Et ainsi ben, de refléter encore plus la personne de Dieu. On sait que c'est difficile, on sait que c'est compliqué. Hein, l'apôtre Paul lui-même, il avait ses propres luttes. Hein, dans Romains chapitre 7, les versets 15 à 22, il nous dit « Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je ne fais ce que je ne veux pas, Je reconnais par là que la loi est bonne, mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est-à-dire que Paul y reconnaissait, alors qu'on parle du grand apôtre Paul, hein, Paul le reconnaissait qu'il avait besoin constamment de l'aide de Dieu pour se maintenir dans la sainteté. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et donc il dit, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est-à-dire qu'on aura quelque part hein, ce boulet attaché et on aura toujours besoin de venir à Dieu pour nous aider à nous maintenir dans la pureté, nous maintenir dans la sainteté. L'apôtre Jean nous rappelle dans sa première épître, au chapitre 3, les versets 2 à 3, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas encore dans la perfection de Christ. Nous n'avons pas été encore glorifiés dans nos corps, nous n'avons pas été complètement débarrassés du péché, de la chair, de nos convoitises, mais il nous dit, nous savons que lorsqu'il paraîtra, c'est-à-dire que quand Christ reviendra, lorsqu'il établira son règne, là, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est-à-dire que ce qui va nous motiver dans la pureté, dans la sainteté, c'est de se rappeler de ce jour où, effectivement, Christ nous rendra purs, parfaits, saints, en toutes choses, dans tous les aspects de notre être. Nous serons alors semblables à lui. Et donc, ça, c'est la motivation. C'est la motivation que maintenant sur Terre, eh bien, je vais chercher à me purifier. Je vais rechercher la sainteté dans ma vie. Au moment de notre conversion, Dieu nous a déclarés saints, il nous a déclarés justes, non pas à cause de ce que nous avons produit comme œuvre, n'est-ce pas? Mais sur la base de l'œuvre rédemptrice de Christ lui-même sur la croix. Hein, nous péchons encore, malheureusement. Hein, nous avons toujours les influences de notre chair. Mais nous devons, hein, comme Pierre nous dit, comme des enfants obéissants, rechercher à ressembler à Christ. Et ressembler à Christ, ça veut dire que de l'autre côté, je dois me débarrasser de tout ce qui ne ressemble pas à Christ. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 14, il nous dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Donc maintenant, il y a un cap qui a été passé. On parle de autrefois, c'est le passé, mais maintenant, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Maintenant, vous êtes dans la connaissance du Seigneur Jésus. Vous êtes dans la connaissance de sa volonté, de sa parole. Et il dit, mais puisqu'il vous a appelé, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et donc, voilà bien le premier élément, hein, de la sagesse. Et rappelez-vous que la sagesse, ce n'est pas que de la connaissance. La sagesse, ce n'est pas de l'intelligence. La sagesse, c'est qu'on a toutes ces informations et on agit sur la base de ces informations et en accord avec la volonté de Dieu, avec sa parole. Et donc la sainteté, la pureté, c'est oui l'absence de péché, mais c'est aussi de continuer cette lutte contre le péché. On voit à travers le Nouveau Testament. Souvent, il est question de cette fameuse persévérance du croyant. Persévérer. C'est-à-dire que même si c'est difficile, un peu comme ces athlètes hein, qui ont couru hein, plusieurs kilomètres, même si c'est difficile d'arriver jusqu'à la fin, même s'ils sont en train de cracher leurs poumons, même s'ils ont des crampes, même s'ils sont là presque à marcher comme des zombies presque. Persévérer. Pourquoi? Parce que l'objectif, il est là. Il est présent. La ligne d'arrivée, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Elle est réelle. Et pour nous, c'est cette même idée. C'est que ben, la venue de Christ, le retour de Christ, c'est quelque chose de réel. Le fait que nous allons être rendus semblables à lui, c'est quelque chose de réel. C'est notre ligne d'arrivée. Et nous devons persévérer, continuer notre course. Ce qui va nous aider à nous maintenir dans la pureté. c'est la parole de Dieu. Plus de temps nous allons passer dans la parole de Dieu, plus nous allons être vitalisés, fortifiés à faire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est bien. On connaît tous ce verset qu'on cite souvent, le psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment? En se dirigeant d'après ta parole. Donc, si on ne s'imprègne pas de la parole de Dieu, si on n'est pas en train de suivre la parole de Dieu, on ne va pas réussir à se maintenir dans la pureté, dans la sainteté. Ça ne va pas être possible. On va pouvoir peut-être montrer une certaine façade, une certaine image, mais ça va être extrêmement difficile de constamment maintenir cela. Tandis que celui qui vit d'après la parole de Dieu, qui suit la parole de Dieu, qui la met en pratique, c'est quelque chose de réel. Paul nous rappelle également au chapitre 6 de l'Épître aux Romains, verset 6, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et c'est une des choses que nous avons vues aussi avec les ados pendant ce camp, c'est que nous ne sommes plus esclaves du péché, nous n'avons plus à y obéir. Souvent, on va entendre, ah, c'est plus fort que moi. Ou bien c'est ma personnalité, je suis comme ça. Mais ce à quoi Dieu nous appelle, c'est à une transformation, c'est un changement. La repentance, c'est un changement de notre vie, de notre manière de penser, de notre manière de voir les choses, de notre manière de nous comporter. Et ça, oui, transforme également notre personnalité. Mais nous ne sommes plus esclaves du péché. Donc nous n'avons plus à y obéir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut constamment se rappeler à notre esprit lorsque bien viennent les tentations, viennent les convoitises, etc. C'est que je n'ai plus à y obéir. Ils n'ont aucune puissance sur moi maintenant. Donc ce n'est pas comme si je n'ai plus le choix, ce n'est pas comme si je n'ai pas la capacité ou la puissance, parce que en Christ et par l'Esprit Saint, eh bien, nous avons tout ce que nous avons besoin pour nous maintenir dans la sainteté, nous maintenir purs. La deuxième colonne que nous voyons, c'est celle de la paix. Et cette sagesse, donc, elle est pacifique. Là encore, on revoit ce que le Seigneur Jésus avait prêché en Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Je crois que c'est terrible lorsque des chrétiens ne manifestent pas cette paix déjà dans leur vie, ne manifestent pas cette paix dans une église, dans une assemblée. Mais la véritable sagesse va faire en sorte que le chrétien va rechercher la paix en toutes choses. Ceux qui sont sages, ce ne sont pas ceux qui vont perpétuer les conflits, qui vont envenimer les choses par une parole déplacée, pour un geste qui n'a pas lieu d'être, ou par leur égoïsme. Mais ce sont les personnes qui, eh bien, déjà par humilité, vont rechercher la paix. Dans Philippiens chapitre 2, les versets 1 à 4, Paul, il dit: Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous savez quel a été le premier péché? Le premier péché, celui de Lucifer, c'était l'orgueil. C'est de vouloir se mettre au-dessus de Dieu. Et c'est avec l'orgueil qu'il a réussi également à faire chuter l'humanité dans le péché, en faisant croire à Adam et Ève qu'en désobéissant et en mangeant du fruit, de cette connaissance du bien et du mal, ils seraient comme Dieu. Là, il a interpellé quelque chose en eux. Il a cherché à faire venir l'orgueil dans leur vie, dans leur cœur. Et à cause de l'orgueil, eh bien, vient tous les autres péchés. Quelqu'un qui est orgueilleux ne va pas rechercher la paix. Il va rechercher à avoir raison. Quelqu'un qui est orgueilleux, il va jamais lâcher prise, il va jamais avoir l'humilité pour demander pardon, il va jamais même avoir l'humilité pour accorder le pardon. Quelqu'un d'orgueilleux ne peut pas être pacifique. Mais lorsque Christ nous a sauvés, il nous a déjà accordé une paix, la paix entre Dieu et nous. Et c'est sur la base de cette paix qu'il nous demande également de partager cette paix avec les autres. Je ne vais pas pouvoir partager la paix avec les autres si je suis orgueilleux. Je ne vais pas pouvoir partager la paix avec les autres si je n'ai pas l'humilité, hein, de me placer dans une situation, hein, de service par rapport à mon prochain. Donc, recherchons, comme Paul dit en Romains 14, verset 19, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est l'idée, encore une fois, que eh bien, la sagesse va m'amener à considérer une situation, hein, s'il y a un conflit ou quelque chose, va m'amener à considérer, un, est-ce que c'est important de montrer que j'ai raison? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour que, eh bien, la paix puisse revenir, hein, entre cette personne et moi? Est-ce que le fait que je m'humilie, que je me taise, que je garde certaines choses pour moi et que j'ai cette patience d'attendre que peut-être un frère plus faible ou une sœur plus faible dans la foi puisse comprendre les choses de la parole de Dieu, etc. Il y a des situations où, si nous recherchons la paix, nous allons être amenés à nous humilier devant une personne. Et pour parvenir à faire cela, on a besoin d'être dirigé par l'Esprit Saint. On a besoin de laisser l'Esprit Saint diriger notre vie. C'est-à-dire que même avant que je puisse m'humilier devant une personne, il faut déjà que je m'humilie devant le Seigneur, devant son Esprit Saint, que je laisse agir dans ma vie, qu'il puisse produire ce fruit spirituel dans ma vie. Ce qui pousse au conflit, conflit relationnel dans le couple, dans la famille, dans le voisinage, entre les pays, etc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est si ce n'est que à la base, il y a ce péché, un péché de l'orgueil, qui pousse les gens vers la violence, vers la haine et la guerre. On va continuer parce qu'on a encore beaucoup de colonnes à voir. Mais la troisième, c'est la modération. La sagesse, selon Dieu, elle est modérée. Et le terme grec qui est employé et qu'on a traduit par modéré en français, c'est pas vraiment encore. Il n'y a pas toute la force du mot, hein, qui existe dans le grec, dans notre vocabulaire français. Mais l'idée qui est là, présente dans le terme épikéès, c'est l'idée de quelque chose qui est équitable, quelque chose qui est convenable, bienséant, quelque chose qui est juste, mais qui est aussi doux, qui est patient, qui est courtois, qui est prévenant. Et donc une personne modérée, encore une fois, on va revenir à cette humilité, hein, une personne modérée est humble et elle va être patiente. Déjà pour rechercher la paix, il faut user beaucoup de patience. Et on va avoir besoin donc de cette modération, hein, de cette justice, de cette bienséance dans notre vie, hein, parce que cette personne qui est en face de nous, eh bien, elle a besoin de voir un Christ en nous. Elle a besoin de voir que nous avons cet même amour que le Seigneur, que nous avons cette même prévenance envers cette personne. Une personne modérée, bien, va être amené souvent à subir un certain déshonneur, hein, même des mauvais traitements et la persécution. Christ a subi, hein, le déshonneur, les persécutions, la mort, le rejet de son peuple. Pourtant, est-ce que ça l'a empêché de rechercher la paix, de prêcher la paix? Est-ce que ça l'a empêché de manifester son amour envers eux? Non. Il n'a pas. Il y a un cantique en anglais, hein, qui parle du moment où Christ il a été crucifié et qu'il aurait pu appeler, hein, des dizaines de milliers d'anges pour venir le sortir de cette situation-là. Christ, il est tout puissant. Il avait juste à dire ou même à penser, hein, et toutes ces personnes méchantes auraient été complètement désintégrées. Il a la puissance de le faire. Mais parce que, voilà, il est amour et que il veut, voulait manifester cet amour à tout être humain, eh bien, il a eu cette modération, hein, de continuer à être, eh bien, patient, doux, courtois, même prévenant, même envers ceux qui le persécutaient, n'est-ce pas? Même envers ceux qui se moquaient de lui, qui étaient crucifiés à ses côtés. Dans ce sermon sur la montagne que j'ai déjà mentionné, chapitre 5 de Matthieu, verset 5, il dit: Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ça a été la vie de tous les serviteurs de Dieu. Ça a été la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est logique de voir que même dans notre vie, il va y avoir des moments difficiles. Il va y avoir des moments où on va être outragé, où on va être offensé. Mais ça ne doit pas ôter de nos yeux, de notre vue, qu'en face de nous, nous avons des personnes perdues. En face de nous, nous avons peut-être un frère, une sœur qui est plus faible dans la foi. En face de nous, nous avons peut-être un frère, une sœur qui a des luttes, hein, des luttes spirituelles. Et ceux qui sont donc vraiment modérés savent qu'il ne faut pas que ben, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, hein, il ait des querelles, mais qu'il soit au contraire affable, hein, pour tous, hein, et doué de patience. C'est cette humilité caractéristique de Christ, hein, que nous devons donc développer. On va continuer d'avancer. Quatrième colonne, nous avons la conciliation. Hein, la conciliation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va être accommodant, qui va être arrangeant. Hein, ça va être lié avec ce que nous venons déjà de voir. C'est que qu'est-ce que nous sommes prêts, ben, à lâcher? Qu'est-ce que nous sommes prêts à abandonner, hein, pour le bien de notre prochain? Même s'il faut dire au revoir à notre confort. Hein, même si parfois il faut dire au revoir, eh bien, aux choses qu'on apprécie tant dans cette vie ici-bas. La sagesse de Dieu, elle est consignante, c'est-à-dire qu'elle est prête à céder sans rancune ni contestation. Elle est ouverte à l'enseignement, elle est docile, elle n'est pas têtue, elle n'est pas entêtée, elle ne s'acharne pas sur ces choses-là. Non, elle accepte d'être enseignée. Le terme qui est employé ici, hein, dans le grec, c'est un terme qu'on utilisait pour qualifier un homme qui se soumettait volontiers à la discipline militaire. Je crois que pour vraiment, je sais que mon ami Philippe, il aime faire ça. Pour expliquer un mot, il donne le contraire, il donne l'antonyme. Mais pour moi, c'est rebelle. Hein, si on devait donner le contraire de consignant, c'est quelqu'un qui est rebelle. C'est quelqu'un qui ne veut pas écouter, c'est quelqu'un qui ne veut pas obéir, c'est quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et donc, une personne qui se soumettait, qui acceptait, qui se conformait à ce qu'on lui demandait, un soldat, hein, dans ce contexte-là, eh bien, c'est quelqu'un qui observait fidèlement, hein, toutes les obligations qui étaient les siennes, qui suivaient tout ce qui lui était demandé. Et c'est une qualité, encore une fois, qui est prêchée par Christ dans ce sermon sur la montagne. Mais quand nous avons, hein, cette sagesse qui nous vient des Écritures, nous allons être amenés justement à être conciliants. C'est-à-dire que on va écouter Dieu, se soumettre à sa volonté. Et que même si on est dans un contexte, on est entouré de frères, de sœurs, et qu'il y en a un qui nous demande, hey, tu peux mettre la table, hein, tu peux faire ceci, ou tu peux. C'est oui, pas de problème. Hein, je vais le faire. Et on le fait pour la gloire de Dieu. Hein, pas parce qu'on est un moins que rien, parce que. Non, parce que c'est l'exemple de Christ, hein, qui est venu en tant que serviteur, hein, ici-bas, et de faire la même chose, d'être obéissant. Ensuite, nous avons deux termes qui sont donnés et qui sont liées, je les ai mis ensemble, parce que pour moi, il y a cette question de plénitude. Il parle de plénitude, de miséricorde, et plein de bons fruits, hein, plein de miséricorde et de bons fruits. Moi, j'ai mis ça dans cette plénitude de bonté. Hein, parce que la miséricorde et les bons fruits, hein, ça découle de la bonté, hein, que Dieu place dans notre cœur. La sagesse, selon Dieu, elle est pleine de miséricorde, donc. Encore une fois. Matthieu chapitre 5, heureux les miséricordieux. Le croyant qui est plein de miséricorde, qui manifeste sa foi, qui est réel, une foi qui a transformé vraiment sa vie, non seulement c'est quelqu'un qui va pardonner aux autres, à ceux qui lui ont fait du tort, mais il va même chercher à les aider dans leurs besoins. Hein, c'est vraiment, quand Christ il dit aimez vos ennemis, c'est pas juste dire à mon ennemi je t'aime, mais ça va être de le manifester de manière concrète, et ça va être de faire de bonnes choses pour cette personne qui ne mérite pas. Mais encore une fois, la grâce, c'est ça, c'est quelque chose que l'on ne mérite pas. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui en tant que chrétiens, c'est la grâce de Dieu. On ne mérite pas le salut, on ne mérite pas l'Esprit Saint, on ne mérite pas les bénédictions de Dieu, c'est sa grâce pour nous. Mais Dieu également, il veut que nous, dans notre vie, eh bien, nous manifestions de la bonté, que nous ayons cette grâce les uns envers les autres. Comme hein, le bon Samaritain, dont on connaît bien l'histoire, qui a eu de la sollicitude, de la compassion pour tous ceux qui l'a rencontré, même celui qui, culturellement, était un ennemi. Hein, parce que Juif et Samaritain, ils ne s'aimaient pas. Ils ne s'appréciaient pas. Hein, les Juifs, un peu comme moi je fais avec Paris, ils contournaient la Samarie. Moi je contourne Paris, eux ils contournaient la Samarie. Parce qu'ils ne voulaient pas être affiliés avec eux. C'était vraiment une haine profonde qu'ils avaient les uns pour les autres. Et c'est pour ça qu'on comprend mieux cette image, hein, de ce bon Samaritain qui, ben, il n'a pas regardé quelle ethnie, quelle culture, quelle nationalité, quoi que ce soit. Il n'a pas regardé si cette personne méritait quoi que ce soit. Il a vu une personne qui était dans le besoin. Et je crois que quand nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous adoptons cette même manière de voir les personnes autour de nous, des personnes qui sont dans le besoin. Oui, il est agressif. Oui, il est méchant. Oui, il est hargneux. Oui, bon, sa vie, c'est pas du, c'est écœurant. Mais la miséricorde que je dois manifester, la grâce que je dois manifester, c'est celle que Dieu m'a manifestée. Et qui suis-je comparé à mon prochain? Nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas? Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est sage. Nul ne cherche Dieu. Et nous devons constamment nous rappeler ces choses-là et agir avec cette sagesse qui nous pousse donc vers la miséricorde, à nous rappeler que ben, Dieu m'a fait grâce. Qui suis-je pour ne pas faire grâce à mon prochain? Qui suis-je pour ne pas pardonner? Qui suis-je pour être celui qui va être constamment en train d'avoir des propos méchants vis-à-vis de ceux qui mènent une vie qui déshonore Dieu? C'est ce que nous étions autrefois. Et donc nous sommes amenés également à être plein de bons fruits. Plein de bons fruits. Hein, la sagesse, selon Dieu, c'est cette plénitude de bonté qui se voit dans nos actions. On connaît tous hein, ce passage de Galates 5, 22 sur le fruit de l'esprit. Hein, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Hein, on voit plusieurs de ces éléments qui coïncident avec ces colonnes que nous sommes en train de voir. Mais la sagesse, encore une fois, ce n'est pas simplement la connaissance, c'est la mise en pratique de cette connaissance. Et quand nous faisons cela, eh bien, nous allons être amenés à être remplis de miséricorde et amenés à être remplis de bons fruits spirituels. Puis nous avons la droiture, hein, quelque chose qui est juste, quelque chose qui est sans parti pris. Encore une fois, un peu cette notion d'équité. La sagesse, selon Dieu, elle est exempte de duplicité, nous dit ce passage. Ce terme, dans le grec, il est seulement utilisé dans le Nouveau Testament et signifie vraiment être séparé de quelque chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est certain, c'est quelqu'un qui est décidé, qui est convaincu et qui donc va être inébranlable. C'est donc l'idée de faire ce qui est vraiment juste, peu importe la situation. Même si on est dans une situation où bah, il n'y a personne qui me regarde, il n'y a personne qui va le savoir, ben je vais faire ce qui est juste. J'ai la possibilité de faire quelque chose de mauvais, mais que personne ne le sache, mais on sait que Dieu le sait. Mais c'est dans cette situation-là, je vais agir avec droiture. Hein, parfois, ce terme, il était utilisé pour indiquer l'impartialité, hein, le fait de traiter chacun de manière équitable, sans favoritisme. Et là, encore une fois, c'est ce que Dieu y fait envers nous. Hein, Dieu ne fait point de favoritisme. À ses yeux, nous sommes tous pécheurs. À ses yeux, aucun de nous ne méritons sa grâce, ne méritons son pardon, ne méritons son aide, mais Dieu nous l'accorde parce que c'est un Dieu qui est amour et qui manifeste cet amour par la grâce, par la miséricorde, et donc qui nous amène, nous, à agir de la même manière que Dieu. C'est-à-dire que là où j'ai la possibilité de faire ce qui est juste, et même si ce n'est pas facile, eh bien, je vais le faire. Et c'est une qualité spirituelle, bien sûr, qui est importante, et même que Jacques, il a déjà souligné, si vous regardez un peu avant au chapitre 2, les versets 1 et 9, il parle de cette impartialité. Il dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, tiens, tiens-toi debout, hein, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, n'est-ce pas? Donc, la droiture, hein, va nous amener à être équitable, à ne pas montrer de favoritisme. Et je crois que l'image même d'une église, c'est ce qu'elle doit être. C'est-à-dire qu'on a un groupe de personnes qui se réunissent, des groupes différents de personnes, des personnes qui ont des niveaux sociaux différents, des niveaux d'éducation différents, des personnes qui sont en pleine capacité mentale et d'autres non. Hein, on a toutes sortes de personnes qu'on a vues hein, ici venir à l'église et dans différentes églises. Mais ce qui fait la beauté et la force d'une église, c'est que bien, quand les chrétiens regardent les personnes autour d'elles de la même manière, avec le même amour, avec la même grâce, la même miséricorde, et qu'il n'y ait pas de favoritisme. Et finalement, notre dernière colonne, c'est celle de la sincérité. Être sincère. Hein, Paul, il nous dit souvent, notamment dans Colossiens chapitre 3, hein, ne mentez pas les uns aux autres. Hein, vous êtes en dépouille du vieil homme. Mais le fait d'être honnête, d'être sincère, hein, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie. Hein, parce que voilà, la sagesse, selon Dieu, est exempte d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un des péchés que Jésus condamnait le plus, n'est-ce pas? Parce qu'il avait en face de lui des chefs religieux qui étaient complètement et totalement hypocrites, qui imposaient les choses au peuple et qu'eux-mêmes n'étaient pas capables de suivre. Il a maintes fois corrigé hein, les scribes, les pharisiens et les chefs religieux hein, pour cette hypocrisie, pour ce manque de sincérité. Et il avait mis en garde justement ses disciples hein, de se garder hein, du levain des pharisiens, hein, qui est l'hypocrisie. Rappelez-vous que quand il y a eu ce groupe de pharisiens qui était venu tendre un piège au Seigneur hein, pour cette question sur les impôts, sur les taxes, n'est-ce pas? Et on connaît bien hein, la réponse du Seigneur, mais Jésus, il connaissait leur cœur méchant, il connaissait leurs pensées, il connaissait leurs objectifs. Et il leur dit, pourquoi me tentez-vous hypocrite? Pourquoi? Parce que bah, eux, ils payaient leurs impôts. Hein. Il voulait pas se faire attraper par les Romains, il voulait pas se faire persécuter ou quoi que ce soit. Donc eux, ils payaient l'impôt. Ah, mais leur question elle-même, elle était hypocrite, donc. Et donc, peu de temps après, même il y a eu un groupe qui était semblable, hein, et Christ leur dit: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. C'est-à-dire qu'ils avaient l'apparence d'une certaine sainteté, mais le cœur était complètement corrompu, complètement noir. Donc, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Et ça aussi, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller sur la sincérité, eh bien, de nos motivations, la sincérité de nos actions, la sincérité de nos paroles. Lorsque le Seigneur avait partagé également la parabole, hein, des serviteurs sages et méchants, il dit avec les paroles suivantes qui donnent beaucoup à réfléchir, hein, il dit: Le maître de ce serviteur viendra un jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. Hein, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Hein, l'hypocrisie. Il faut vraiment veiller, hein, à ce que tout ce que nous faisons, hein, soit fait dans la vérité, la sincérité. Pourquoi? Parce que, là, encore une fois, on en revient au Seigneur Jésus-Christ. Il est la vérité. Hein, et tout ce que l'on doit faire doit être animé par ce désir d'être dans la vérité, de ce désir de proclamer la vérité, hein, et de protéger aussi la vérité. Pierre aussi, hein, il classe l'hypocrisie avec la méchanceté, hein, la dissimulation, l'envie, et la médisance. Et donc, la sincérité, si on ne peut pas avoir cela comme colonne dans notre vie, on va pouvoir, les gens vont remettre en doute tous les autres, toutes les autres colonnes. C'est-à-dire que si on n'a pas cette colonne de la vérité, cette colonne qui est vraiment de la pierre taillée et non pas, hein, une colonne en plâtre qui est vide, hein, on se rappelle que quand on a loué notre maison, il y avait des poutres, on dit: Ah, oh, c'est joli! Puis après, on se constate: Ah, c'est du polystyrène. Ah ben, bon, on ne l'a pas gardé très très longtemps. Hein. Mais voilà, y a vraiment une déception quand on se rend compte que c'est pas du vrai, c'est pas réel, c'est pas ce que ça paraît, mais ce n'est pas cela. Imaginez ce que doivent ressentir les perdus lorsqu'ils se rendent compte que tel chrétien ou telle chrétienne, finalement, bah, voilà, c'est que de l'apparence. Parce que voilà, il a dit ceci ou il a agi comme ça, et c'est pas du tout ce qu'il nous dit depuis le début. On a reçu par le salut en Jésus-Christ une fondation solide, un Christ, notre roc, notre rocher, hein, sur lequel notre édifice spirituel doit être construit. Et donc là, on a le choix. On a un choix à faire en tant que chrétien, c'est, hein, déjà de s'assurer qu'on est bien sur ce fondement, hein, de Christ pour notre salut, mais que maintenant que nous avons ce fondement, eh bien, on puisse bâtir les murs, cette structure, mettre ces colonnes qui vont pas simplement être des colonnes d'apparat, mais des colonnes qui vont soutenir aussi le reste de l'édifice. Hein, il y a ces deux aspects. Hein, il y a cet aspect de je maintiens les choses, mais il y a aussi cet aspect de quelque chose qui est visible, quelque chose qui peut être admiré, quelque chose qui va être un témoignage, hein, de la valeur de la maison. Il y a une maison comme ça. À Villers-Bretonneux, où c'est un mélange de styles, hein, mais ils ont mis comme ça des petites colonnes un peu romaines là autour d'une véranda. Bon, ça fait vraiment un peu bizarre tout le style, quoi. Mais bon, je suis pas certain que ça a ajouté beaucoup de valeur à la maison comme ça. Maintenant, si on avait vraiment une maison qui était construite dans ce même style avec des belles colonnes, ah oui, ça serait quelque chose d'impressionnant. Mais voilà, si on regarde là les colonnes, ah ouais, c'est bien. Et puis on regarde le reste de la maison. Et notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, elle est ainsi. On a ces colonnes, mais les colonnes, elles doivent aussi refléter ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a sur le reste de la maison. Donc on a fait ce choix du fondement, ce choix aussi pour la structure à donner à notre vie. Et on peut, oui, se contenter d'avoir la bonne fondation, d'avoir le salut en Jésus-Christ, mais on ne va pas pouvoir bénéficier d'une maison qui soit stable, on ne va pas pouvoir bénéficier de l'abri que l'on peut avoir, parce que l'idée d'avoir une maison, c'est pouvoir être à l'abri, n'est-ce pas, d'avoir un toit au-dessus de nos têtes, d'être protégé des éléments, etc., protégé aussi peut-être des intrus. Hein, parce que si on avait juste la fondation, et puis tiens, je mets mon canapé là, mais il n'y a aucun mur, il n'y a aucun toit, je vais mettre ma télé, elle va rester peut-être 2 heures, et puis après, ben, elle est passée où la télé, hein? Mais on ne doit pas se contenter simplement de la fondation. Hein? On a tout un édifice à construire, et cet édifice à la fois va nous aider, hein, et va nous protéger, mais va aussi être un témoignage de ce que Christ accomplit dans notre vie lorsque eh bien, nous nous soumettons à sa volonté. Parce que commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est je reconnais qui il est, je reconnais qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant, et je me soumets à sa volonté. Et donc, le début de la sagesse, ça va être ça. C'est se soumettre à Dieu et de faire ce qu'il nous demande. Et nous allons ainsi pouvoir mettre et établir ces colonnes dans notre vie qui seront à la fois un témoignage pour les autres, mais aussi un renfort et une protection pour nous-mêmes, pour notre vie. Prions.